Vous avez peut-être besoin d'espérance dans ce monde, et c'est nécessaire, je pense. Il y a un dilemme pour le croyant. Il y a ce que, je dirais, on voit dans l'actualité, dans le monde, ce qu'on déforme aussi. Parfois qu'on déforme, qu'on accentue, par la panique, la peur ou par les masses médias qui créent une espèce d'aura. Ténébreuse alentour de tout ce qui se passe, et puis dans lequel ils ne parlent jamais de Dieu, ils ne veulent pas de la lumière de Christ, et donc et de la paix de Christ surtout. Et donc nous chrétiens, nous avons une... si nous sommes vraiment devenus chrétiens en ayant donné un jour notre cœur à Jésus, il y a une position à prendre pour maintenant de plus en plus, qui doit être précise. C'est un peu pour ça que je parle aujourd'hui. Elle doit être très précise. Bon, il y a dans l'Apocalypse des textes sur les églises. Vous savez que les églises où il y a les meilleurs chrétiens, les chrétiens les plus éprouvés, c'est là où il y a le trône de Satan, et là où... il y a de la sorcellerie de Balaam, etc. Les églises, les deux églises qui ont réellement des assauts, dans lesquels il y a des chrétiens qui résistent, et des autres trahissent. Et puis il y a l'église de Philadelphie, qui est petite, sans puissance, qui paraît pas brillante, et qui est fidèle à la parole, et qui mène son chemin pour amener des gens d'Israël et d'autres peuples à la foi. Donc il y a 3 églises sur 7. Et les églises qui capotent, qui se cassent la figure, c'est celles où il n'y a pas de persécution. Éphèse, etc. Les autres, on regarde la carte, et on regarde, il n'y a pas de persécution. Ça baigne. Et tout dégringole. Alors, que choisissez-vous? Que choisissez-vous, les amis? Voilà, c'est aujourd'hui le dilemme pour les églises. Les églises ont eu pendant une période, énormément d'églises ont un bâtiment, pas encore nous, peut-être jamais, j'en sais rien, c'est que Dieu fasse sa volonté, mais l'église ont de l'argent dans les comptes, un trésorier, un conseil d'anciens, tout organisé, etc. Et le feu descend. C'est un gros problème, parce qu'il n'y a personne dans l'église qui se présente pour servir, c'est très rare. Il y a quelques hommes qui bossent et qui courent. Ils ont leur travail et ils ont accepté le rôle d'ancien ou de diacre, ils courent à côté tout le temps. Et forcément, ils ne font pas les visites aux malades, ils ne font pas les visites à la personne en détresse, où c'est vraiment au péril de leur couple. S'ils ne se voient plus en couple, s'ils ne se voient plus dans la famille, ça tournera en catastrophe, c'est clair. Donc la situation est difficile pour les églises, et parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans, la promotion de chaque famille, c'était de faire de ses fils et de ses filles des gens brillants dans la société, en prenant ça pour une bénédiction. Et automatiquement, tous ces gens-là ont pris ces bénédictions-là, entre guillemets, et ne sont pas consacrés vraiment à Dieu dans les églises. Il n'y a pas de ministère qui s'est éveillé, et leurs enfants, les générations d'après, encore plus. On s'est écarté. Donc les églises s'affaiblissent, parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont crucifiées, je dirais, en Christ. Parce que le ministère, c'est vraiment... c'est crucifié en Christ, hein, c'est pas si simple que ça. C'est pas toujours peinard. Moi, ce que je voudrais, c'est vous dire que nous échappons, par notre situation de notre Église, un peu à ça. Pourquoi est-ce qu'on échappe à ça? Parce qu'à la sortie de l'Institut, le directeur, je n'en croyais pas mes yeux, quand il y avait des affiches à l'Institut, il me disait, je voulais aller voir. D'ailleurs, j'ai été voir. Et ma femme n'a pas voulu venir avec moi. J'ai été voir. Il y avait des groupes de jeunes, il y avait un presbytère, il y avait tout. Il y avait la salle, il y avait du monde. J'ai même été une fois avec ma femme à des repas pour voir, sentir la température, comme on dit. Et puis ce directeur m'a dit, il ne faut pas que tu ailles dans tout ça. Les églises sont mortes. Après 3 ans d'institut, se faire mettre ça dans le nez, je vous garantis que c'est dur. À la limite, il aurait dit au départ, je n'aurais peut-être pas fait l'institut du tout. Hein. Et il m'a dit ceci, Jean commence avec, dans ta région, sur la zone de la France, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui passaient ici pour l'entreprise, et ceux qui t'aiment resteront avec toi. Et finalement, cet homme-là, il m'a dit, je pars un an aux États-Unis, je reviendrai après pour t'aider, on collaborera ensemble. C'est un brave type. Hein. Il avait une très grande connaissance du ministère pastoral, ça m'intéressait vraiment. Parce que moi, je n'étais pas formé pour être pasteur. Je venais du catholicisme, et être prêtre et être pasteur, c'est pas du tout la même chose, les amis. Hein. Et prêtre, encore, avec les idées de mai 68 un peu en arrière-fond, les idées socialistes, humanistes et tout ça, mélangées. Donc, pratiquement, c'était pas simple. J'espérais vraiment avoir un appui et être à l'école. Mais j'ai pas eu cet homme. Je l'ai pas vu arriver. Il a eu des tuiles, mais des tuiles énormes dans sa famille et ses enfants. Et il est resté aux États-Unis. Il a été couvert d'épreuves. Et moi, je me suis retrouvé en réunion à Montmédy, à 2 endroits différents, que Jacques connaît bien. Et puis après, quand la maison a été vendue, là où on était, elle est encore à vendre d'ailleurs, elle a été revendue, il y a quelque chose sur cette maison, vous savez. Pas possible autrement de voir ça. On est venu ici, en se disant, un jour, Dieu nous donnera la possibilité d'avoir un local autre part. Mais en attendant, on n'a pas d'argent pour avoir... s'acheter un bâtiment, on ne va pas faire des dettes. Et puis, le grand inconvénient, c'est que je devais aller chercher des gens partout. Avec la camionnette, je faisais 3-4 trajets, je courais comme un dingue pour amener tout le monde à Montmédy dans des pièces trop petites. Ça serait à l'heure d'aujourd'hui, on ne pourrait même pas faire le culte, tellement c'était petit. C'était la moitié de ceci. Enfin, il y en a une, mais on avait dû la quitter, c'est un salon de coiffure, puis on était dans l'autre, c'était des pièces plus petites. Mais pratiquement, nous sommes passés par des épreuves, il y a eu des tas de problèmes dans notre église. Ma femme, nos enfants ont vu ça, c'était vraiment dur. De gens qui s'appelaient chrétiens, qui étaient avec nous. Alors... je ne dis pas que j'avais toujours bien fait, hein, mais quand même, c'était dément. Je peux dire que les attaques étaient horribles. Nous avons les réfugiés, j'ai appris à une chose, c'est de me mettre à genoux. Parce qu'un vieux chrétien m'avait dit ça, Jean, on ne marche bien qu'à genoux. Alors, cet homme-là, c'est un homme que je visite encore, qui habite en Allemagne, et cette parole m'est toujours restée. Et quand on avançait, quand il m'a dit ça, on avançait sur un trottoir et on allait dans l'église de Saint-Marc. Et je me suis imaginé que j'étais à genoux et que je rentrais dans l'église à genoux. Et que j'en sortais à genoux. Et j'ai bien compris, c'est réel. Le temps devant le Seigneur, dans sa présence, est le temps qui donne la force, qui donne le soutien. Le Seigneur garde ceux qui s'humilient devant lui. Le Seigneur garde ceux qui se font petits devant lui, qui s'arrêtent pour lui, en considération pour lui, qui s'arrêtent pour lui. Et c'est quelque chose de très difficile, bon, en vieillissant, parce que en étant plus vite fatigué, mais naturellement, je garde la priorité à la parole de Dieu. Je vais coucher à 11h30, minuit et demi, à la parole de Dieu, parce que j'ai plusieurs enseignements, j'ai des rencontres, il faut que je sois toujours prêt. Même que je n'aurai pas ma Bible, il faut que j'ai des versets qui sortent de ma bouche. Et avec des choses claires. Donc il faut toujours être prêt. Donc pratiquement, ce qui se passait avant, je me relevais à 5, 6 heures, 5 heures, 4 heures pour prier. Il y avait 2 temps. C'est difficile. Donc, je le fais dans la journée quand je peux, mais je vais vous dire une chose, c'est pas pour me mettre en valeur, c'est votre destination dans les temps qui viennent, c'est votre destination ou c'est la chute. Ou c'est la chute spirituelle. Notre destination, c'est d'être de plus en plus en face du Seigneur et de se mettre dans la prière et l'adoration. L'adoration est le respect de Christ, le respect de Jésus et lui parler. Et prendre le temps, pas dire je n'ai que 5 minutes ou un quart d'heure, prendre le temps. Le temps lui appartient, il ne m'appartient pas. C'est une erreur de croire que le temps nous appartient. Demain, dans 2 secondes, je vais être mort. Le temps ne m'appartient pas, le temps est à lui. Je ne sais pas courir, je n'ai plus d'essence, je ne peux pas circuler, l'espace est à lui. Partout où il est. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'argent, je peux être dans ma chambre, je peux être sur un banc dans la rue, je peux être en train de travailler dans le jardin, mais que ce soit devant lui. Devant lui. Jamais pour moi, jamais pour les jardins, jamais pour la vaisselle, jamais pour la lessive, jamais pour la mangeaille. Que ce soit pour lui, devant lui. Parce que le jour qu'il n'y a pas à manger, le jour qu'il n'y a plus de jardin, le jour que j'ai plus de gens pour faire le boulot, je suis devant lui, j'ai pris l'habitude d'être devant lui. Et si la persécution arrive, je suis avec lui. Alors, une de nos filles a eu un jour, à 10-12 ans, un rêve, en voyant des gens qui débarquaient en hélicoptère sur les collines ici, et des gens très, très redoutables, djihadistes, et qui arrivaient, qui tuaient tout le monde en village, et nous étions à genoux dans la maison, en train de prier, et ils nous ont épargnés. Est-ce un rêve ou un songe? Cette personne de nos familles m'a dit, c'est un songe. Les songes sont toujours quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. La deuxième chose, c'est que j'ai déjà été devant quelqu'un qui voulait me tuer plusieurs fois. Et réellement, si je n'avais pas l'habitude d'être toujours avec le Seigneur, je ne serais plus vivant. Qu'est-ce qu'il y a quand on est avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a quand on est avec le Seigneur? Je vais vous dire, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il y a des chrétiens qui vivent avec cette dimension-là tous les jours. Nous ne sommes pas habitués, il faudra s'y faire. Luc 22, 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Cribler, entre les deux meules. Luc, chapitre 22, verset 31. Est-ce que vous croyez que c'est de la rigolade? C'est pas mis « t'a réclamé », c'est mis « vous a réclamé ». Ça concerne les chrétiens. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, écrabouiller, moudre, réduire en poussière. C'est que la prière est la puissance de Dieu dans nos vies. La prière, pas parce qu'on prie, pas plus qu'un autre, parce que Christ est là. Tandis que quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie, il faut savoir que Christ est ressuscité du tombeau et ressuscité. C'est le Fils de Dieu. Il a dit, j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33, prenez courage, vous aurez des tribulations, j'ai vaincu le monde. Dans Matthieu 28, verset 18, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Chaque fois que je suis devant un cas d'occultisme, de sorcellerie, toujours je prends ces versets, je prie. Et je n'y vais pas avant d'être certain. Seigneur, quand est-ce que je peux aller là? Même qu'on m'appelle. Des fois, c'est un an et demi après que j'y vais. Je dis, et quand j'arrive, je dis, Seigneur, marche devant moi. Rentre dans la maison avant moi. Autrement quoi? Mais je vais y passer. Alors, comme ma femme me dit, tu ne dois pas y aller tout seul. Mais je n'y vais pas tout seul. J'attends que le Seigneur... Et le feu vert. Jamais tout seul. Si je vais tout seul, c'est grave. Il y a des problèmes, j'aurai des accidents sur la route, il y aura des problèmes de santé sur ma femme, mes enfants, il y aura des bagarres dans la famille, tout ce qu'on veut. Et peut-être, pour moi, même des choses plus graves. Le désir d'adultère, d'inceste, n'importe quoi. Hein. Un serviteur de Dieu qui ne marche pas avec Christ, ça veut dire tout chrétien qui ne marche pas avec Christ, dans l'adoration, peut tomber dans l'adultère, dans les pensées impures. Il peut regarder des films porno, il peut avoir des fantasmes tout le temps et ne pas s'en sortir. Il peut avoir toutes sortes de choses, aimer l'argent, mentir, des tas de trucs. Il n'arrive pas à s'en échapper. Pourquoi ? Parce que sa relation personnelle avec le Seigneur n'est pas là. Il n'a pas la garantie d'échapper à la puissance du péché, il n'a pas la garantie d'échapper à la puissance aussi du malin. La garantie, c'est, ici vous le voyez, la première garantie, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand c'est ça, il regarde dans les yeux. Quand vous priez, dites-vous bien que les yeux de Christ sont sur vous. Et vous aurez cette occasion de l'échange de regards, de cet échange de personne à personne avec le Christ. Et si vous n'avez pas une expérience exceptionnelle, vous l'avez sans signe exceptionnel. Mais vous avez une expérience exceptionnelle sans les signes exceptionnels. Ce que vous devez savoir, c'est que Jésus prie pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, le mot c'est expérimenter, affermi dans la foi, affermi tes frères. Sur quoi se base Jésus pour interpeller Pierre? Jean chapitre 21. Ici, on voit l'initiative de Jésus dans la vie de Pierre. Voyons maintenant quelle initiative Jésus demande à Pierre. Jean 21, parce que nous sommes dans la réciprocité. Dans la foi chrétienne, c'est une relation avec Jésus-Christ ressuscité. C'est une réciprocité que Jésus demande. Attention à nous. Il n'y a de couple qui marche bien que quand il y a la réciprocité entre chacun, qu'on se respecte, qu'on se parle, qu'on connaît ses qualités et ses défauts, et qu'on s'estime, et qu'on ne fait pas la guerre pour des détails. On se pardonne, on construit ensemble. On construit ensemble. Dans la réciprocité avec Jésus, c'est la même chose. On construit ensemble. Qu'est-ce qu'on construit, les amis ? Une vie d'amour. Une vie d'amour d'abord, avec Jésus. Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Donc, est-ce qu'il y a en toi l'amour que je t'ai mis au départ, agapé ? Oui. Pierre répond, oui, j'ai toujours cet amour pour toi. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes agneaux. La responsabilité de personnes qui n'ont pas encore une vie stable, une vie avec Christ. Et qu'il faut s'occuper comme pas des brebis qui courent, mais comme des petits agneaux. Vous imaginez ce que ça veut dire, les petits agneaux. Prenez le biberon, prenez lait. Elle est dans les bras, et puis voilà, ils n'ont pas de mère et de père, ben vous allez voir le boulot que c'est. Hein? Et n'oubliez surtout pas. Hein? Après, ils vous suivent. Hein? Ils vous collent partout, les petits agneaux, quand vous faites ça. C'est le principe. Quand quelqu'un aime Christ, vraiment, et qu'il prend soin d'autres, les autres collent après cette personne-là. Les autres collent. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer. C'est quelque chose comme les agneaux avec celui qui leur a donné le biberon. Ils n'avaient ni père ni mère. Quand vous avez réellement une vie avec le Seigneur Jésus, vous allez remarquer que des personnes vous collent. Mais ce n'est pas des pots de colle. C'est des personnes que Dieu met autour de vous. Vous devez en prendre soin. Ce n'est pas des pots de colle. Il faut faire la différence. Mais c'est la responsabilité. Et la responsabilité de l'apôtre Pierre, comme de tous les chrétiens, dans l'entourage que nous avons une responsabilité. Et elle repose sur quoi ? Sur l'amour que je vis avec le Christ. Tout le texte est là, vous pouvez le lire. Alors, Vous lirez Luc 21, verset 15, jusqu'à 19. Mais il y a quelque chose qui est mis au verset 16. Je te le dis quand tu étais plus jeune, donc dans les mots grecs, c'est inexpérimenté. Il commence sa foi. Oui, on commence toujours, hein. On progresse, et puis voilà. C'est jamais fini d'ailleurs. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Donc tu prenais l'habitude de prendre des initiatives et de faire les trucs toi-même. Ben oui, c'est toujours la même chose. On se repose plus sur toi que sur soi-même que sur Christ. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. On se repose plus sur soi et sur tout ce qu'on doit faire et tout ce qui nous vient, et tous les boulots et toutes les occupations, que sur Christ. Ça, c'est encore le premier stade de la vie chrétienne. Mais ce qu'il y a, il y a un autre stade. Tu allais où tu voulais, donc je t'ai laissé courir. Je t'ai laissé faire. Mais c'est formidable quand même de la part de Dieu. Là, on n'est pas vraiment dans le matraquage, hein, religieux. Hein. Mais quand tu seras vieux, et le mot en grec c'est expérimenté, éprouvé. Et attention, hein, épreuve, expérimentation. Des fois, c'est pas celle qu'on a choisie, hein. Souvent, hein. Attention, hein. C'est Dieu qui dirige les épreuves. Dieu qui dirige les expérimentations. Et il nous laisse en demeure de choisir, si on l'aime encore. Si on l'aime encore plus. Et mieux. Quand tu seras vieux. Hein, parce que le mot en français, ben oui, ben, quand on est vieux, on est meilleur, quoi. Mais ça, c'est faux, hein, les amis. On n'est pas meilleur parce qu'on prend de l'âge, vous savez. S'il n'y a pas vraiment une maturité en Christ, oulala, des fois ça déglingue. Hein.
Des fois ça confuse.
Oui. Tu étendras tes mains, regardez, comme le Covid là, il faut se laver les mains. Tu étendras tes mains, un autre te ceindra, ça y est. Il te met le bazar, il te met la... C'est une tunique, hein, dans beaucoup de pays. Puis la ceinture, ben oui. Alors, il te mènera où tu ne voudras pas. La destination d'un chrétien, c'est d'être conduit par Christ. Il te mènera où tu ne voudras pas. C'est-à-dire qu'il y a même un conflit d'intérêts. Il y a un conflit qui doit se résoudre dans l'amour. Le Seigneur, j'aime bien te faire ci, j'aime bien te faire ça.
Alors, je voudrais te faire ça. Mais quand je prie, quand je lis la Bible, je ne peux pas. Ma parole, le Seigneur nous observe, il nous regarde, il nous aime. Mais il ne peut pas forcer notre amour. Il ne peut pas forcer notre amour. Il ne peut pas. Parce que le vrai amour est libre. Le faux amour est toujours obligé, obligatoire. C'est extrêmement important, les amis, de savoir ça. Cantique des cantiques. L'image de l'amour entre Jérusalem dans les temps qui viendront et Christ dans les cantiques des cantiques. J'en reviendrai après à parler de ce jeune homme qui a attenté à la vie d'un professeur. Et je vais vous dire, j'ai croisé des gars comme ça, mais je n'ai pas peur d'eux. Mais toujours, je me remets en Christ, toujours. Et au moment où je sais que le Seigneur le désarme, c'est-à-dire ne lui donne plus le moyen d'exécuter la haine qui est déposée en lui, il est désarmé, si vous voulez. Il ne sait pas, il a peut-être encore en lui tout le mal, mais il ne sait plus passer à l'acte. Et au moment où le Seigneur l'a désarmé, je sais que je peux y aller. Et ça, c'est ma requête toujours. Seigneur, quand tu l'auras désarmé, je pourrai y aller. Et il faut donner sa chance à quelqu'un qui est dans le mal. Écoutez, l'apôtre Paul, c'était quoi? C'était un fanatique religieux. Alors, cantique des cantiques.
Ton masque.
Oui, le masque, c'est
un
vrai.
Peu plus haut, un peu plus haut.
Elle a raison, tout à fait. Alors, cantique des cantiques, chapitre 2. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, c'est beau, hein. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille.
C'est le bien-aimé qui dit ça à propos de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Ne réveillez pas. Cantique, les Cantiques 2, verset 7. Que fait le bien-aimé qui parle à... Parce que, en fait, le Cantique des Cantiques, c'est un cœur. En hébreu, il y a une personne, un tsunamite qui représente Jérusalem, et puis il y a des cœurs qui représentent des jeunes filles, les cités, les tribus de Jérusalem. Et il y a un va-et-vient, mais qu'est-ce que fait le bien-aimé ? Le bien-aimé n'a pas besoin de notre amour sentimental, qui sait très bien qu'il tombera, de nos grands serments, qu'on sait bien qu'on ne tiendra pas. À un moment donné, le fiancé demande une consécration telle que c'est un amour sans retour. Qu'est-ce qu'a dit Jésus pour Jérusalem ? Je reviendrai quand ils me diront « Béni soit celui qui vient au nom de Dieu ». Psaume 118. Il le dit 2-3 fois dans Matthieu, Marc et Luc. « Je reviendrai quand ils me diront « Béni soit celui qui vient au nom de Dieu l'Éternel ». Pas avant. Regardez ici, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Nous avons des amours superficiels. Nous avons des amours épisodiques, pas durables, instables. Des amours charnels pour Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Il faut un amour divin. Il faut l'agapé de Dieu, il faut l'amour divin en nous. L'amour qui vient de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu, vient en nous. Jean 17, 17. C'est pour ça que notre destination, l'expérimentation, quand Dieu dit à Pierre, quand tu seras expérimenté, mais mes amis, l'expérience, on se casse toujours la figure. On ne va pas loin avec ça. Mais si c'est l'épreuve de la foi, la fusion de tous les scories, de tous les morceaux de pierre qui ne restent qu'un métal pur, de l'or pur, alors notre adoration, notre amour pour Dieu est pur. C'est ça l'épreuve. Alors 17. Alors Dieu prie, hein. C'est Christ qui prie, mais c'est Dieu aussi, hein. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, gardés par Dieu. C'est ça quand on travaille pour Dieu. C'est ça le ministère. Quand on sert Dieu, on n'est pas tout seul, on est gardé par Dieu. Mais ça, il faut. Ce n'est pas un exercice mental, une autosuggestion. Ça doit être une réalité. Réelle. Une réalité, les amis. Et si vous voulez mener une vie dans laquelle le Seigneur, quand il reviendra, vous prenne, ça doit être une vie comme ça. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Ça va ? Alors, plus loin, je vais plus loin, il faudrait lire tout le chapitre, hein, c'est magnifique. Verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, l'outil de Dieu aujourd'hui est pour nous rendre saints et pour que notre amour se purifie, c'est sa parole. Et ce n'est pas être purifié, chrétien, et être en Christ pour nous-mêmes. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc c'est ça. Quand Jésus dit à Pierre, « Paie mes agneaux hein, », vous imaginez des agneaux qui n'ont plus de père et de mère, et qu'on donne le biberon, ils vous collent tous. Hein. Ma mère ici, il y avait un cochon dans la ferme qui n'avait plus de parents, quoi, de mère. Elle l'a donné le biberon. Le cochon la suivait partout. Il voulait rentrer dans la cuisine, il va aller partout, le cochon. Et dans la famille, ils n'ont jamais voulu manger ce cochon-là. C'est pas possible. Il faisait partie de la famille. Faites ça avec un corbeau. J'ai vu un gars, il est décédé, Jean-Paul, qui était gendarme. Étant adolescent, il y avait des papiers à sortir du village, et un corbeau qui était à terre, il le ramasse, il l'élève et tout. Il parle avec. Et le corbeau volait, puis il s'arrêtait. Moi, je travaillais dans le jardin tout seul un jour, et le corbeau était sur un piquet, il me parlait. J'entendais parler, mais je voyais personne. Je me retourne voir le corbeau. Alors, le corbeau retournait chez lui, et venait me dire bonjour. Alors, un corbeau ne peut pas avoir de l'affection. Regardez pour Élie. Les corbeaux lui ont amené du pain dans le torrent. ne pouvait pas avoir d'affection. Dieu ne pouvait pas donner de l'affection à ces corbeaux-là pour Élie. Attention les amis, quand je fais les messages lundi, mercredi et vendredi, hein, je suis là, quelqu'un passe, rentre, il ouvre la porte à moitié, il la ferme à moitié. Paf, il y a un chat. Il rentre en douce, puis pan, il saute sur les épaules. Je suis là coincé, moi, devant mon smartphone. Le chat, là, Kirikou, il est sur mes épaules et il est dans la caméra. Qu'est-ce que j'y fais, moi? Qui lui a donné une affection pareille? Et il est là, il me tient dans la nuque. C'est bien pour l'arthrose, c'est très bon. Alors, si vous avez une expérimentation de l'amour de Dieu, elle se fait toujours par des moyens que Dieu donne, que prend pour vous. Il vous apprend l'amour. Il nous apprend l'amour. Nous ne savons pas aimer. Il faut le reconnaître. Alors, nous sommes des écoliers. Nous apprenons. Alors, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Hein, vous rappelez ce qu'on a lu dans Luc, que Jésus priait pour Pierre et les apôtres. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui dans le monde croient dans l'évangile, afin que tous soient un comme toi Père, tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité d'amour avec Jésus me fait m'introduit automatiquement dans l'unité du Dieu un. Du Dieu un, Père, Fils et Esprit, qui est un, il m'introduit dans cet amour divin. Je suis dans une autre réalité. Une réalité éternelle. Même si je n'ai pas des signes exceptionnels, j'ai déjà la réalité exceptionnelle. Et les amis, il faut quand même le savoir, ne cherchez pas toujours des signes absolus, pour forcer les choses. Si Dieu un jour vous fait un signe, oui, d'accord. Mais si vous fait un signe, je t'ajoute un plus, parce que tu donneras plus aux autres, hein. Je t'ajoute un plus, tu vois bien tous les autres autour, ils n'ont pas eu ça, mais toi tu vas devoir donner plus. Hein. Attention à toi. Pourquoi? Parce que les talents, c'est ça le problème. Les 5 talents, je les mets en œuvre, et Dieu voit qu'il y en a 10, il m'en redonne encore 5. Mais ça n'arrête plus. Quand vous êtes mis au service dans l'amour de Christ, Dieu met toujours plus pour servir plus. Si vous êtes comme la personne qui a un talent, donc qui a cru en Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité, vous avez le premier talent. Mais le reste, je le mets dans la terre. C'est-à-dire, je vis comme tout le monde. Je ne vois pas ce que je pourrais faire pour Dieu. Puis je ne suis pas là pour servir Dieu, moi. J'ai la foi, je suis sauvé. Bon, ce talent-là, qu'est-ce que fait le maître quand il vient? Mais Tu ne m'as pas considéré comme j'étais, tu n'as pas fait ma volonté. Tu n'as pas réellement accepté mon plan. Regardez, le plan, il est là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. C'est ça le plan de Dieu. Quelqu'un qui est dur de cœur, rateur, oh oui, j'ai la foi, mais il n'a rien changé dans son cœur. Mais il n'a pas ça, il n'a pas ce plan. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire d'un amour qui transforme la vie d'un homme qui a accepté Jésus. L'amour que Dieu donne à Pierre et aux disciples, l'amour qu'il donne à des chrétiens aujourd'hui, est glorieux. Ce n'est pas un amour infidèle, un amour instable, un amour qui va tomber. C'est un amour glorieux, il est éternel et il est conduit par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu sois aimé comme tu m'as aimé. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Donc, quand cet homme-là, qui est venu derrière, me menacer, et puis 8 ans après, il me parle gentiment dans la poste, il reconnaît quelque chose. Là, il a été travaillé par la grâce de Dieu, parce que j'ai prié pour lui. Je ne peux pas laisser cet homme-là dans cet état-là. Moi, dans la prière, je ne peux pas. Je serais profondément égoïste et je n'aimerais pas le plan de Dieu. Donc, je le mets dans la prière. Jean 14. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est l'unité de Dieu. L'unité de Dieu est incontestable pour les chrétiens. C'est clair. On n'a pas trois dieux. L'unité de Dieu. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Tout ce que Jésus a fait comme témoignage, miracle, enseignement, etc. Guérison, expulsion de démons. En vérité, je le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous avez vu ça? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, les amis, ce songe-là d'un de nos enfants, où tout d'un coup on est à genoux, les autres arrivent et ils ne tuent pas, c'est très possible. C'est évident, c'est possible. Parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Dans les périodes d'aujourd'hui, vous allez réagir comment? Nous allons réagir comment? Ce jeune homme qui... Donc, il était dans une classe où le professeur, par délicatesse, il y avait une jeune fille, musulmane, et il y avait un jeune homme. Il dit, je vais présenter Charlie Hebdo, mais celui qui est dérangé, qui ne veut pas voir, parce que ça, il y a quand même un problème avec l'islam dans Charlie Hebdo, il peut sortir. Un garçon sort, la jeune fille reste. La jeune fille rentre chez elle, et puis elle montre au papa et à la maman ce qu'elle a vu. Vous savez qu'avec ces machins-là, on fait ce qu'on veut, hein, même dans les classes, hein, partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Le papa, il le met sur le site. Et puis le garçon, il se rend compte de ce que... Et qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il pense qu'il aime Dieu, et parce qu'on a offensé Dieu, il va le saigner. Ceux qui ont tué Jésus sur la croix aimaient Dieu. La preuve s'est mise dans Zacharie. D'où viennent tes mains, les trous dans tes mains et dans tes pieds dans Zacharie? De ceux qui m'aimaient. Ils aimaient Dieu, mais ils n'aimaient pas son Fils. Ils n'avaient pas compris qui était Dieu. Pour savoir réellement comment aimer Dieu, il faut aimer le Fils. Il faut aimer le Christ. Là, on est dans la volonté de Dieu. On apprend à avoir les mœurs que Dieu veut pour nous, les attitudes intérieures et la transformation. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de violence, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de rage, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus d'amour de l'argent. Pour celui qui aime Jésus, alors Dieu dit, il est sur la voie de la sainteté, il a accepté mon fils Jésus, Jésus s'occupe de lui, et Jésus finira en lui ce qu'il a commencé, donc il sera dans mon paradis. Mais s'il reste dans des états de colère, de rage, de dureté, de violence, d'impureté, de fanatisme, ou même de paresse et de fainéantise, pour Dieu et pour les autres, eh bien, celui-là, il est trop tard quand Jésus revient. Il est trop tard, il ne sera pas pris. Lui, il restera dans les tribulations. Et quand, dans les tribulations avec l'Antichrist, il y a les massacres, ben, mon frère, il passe à la moulinette comme les autres. C'est tout ce que j'allais dire. Pour celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, il faut bien savoir ceci. Nous avons un monde nouveau à découvrir, tous les jours. Un monde nouveau, un monde d'amour, un monde de vérité. Un monde où on doit désarmer nos violences, désarmer. Mais la puissance de Christ nous permet, si nous prions à genoux, d'avoir des fruits chez les autres. Chez les autres, pour Dieu, au nom de Christ, pas pour nous. Et où vais-je, où vont aller ces hommes et ces femmes s'ils donnent leur vie à Christ? Eh bien, Luc 20, verset 27. Quelques-uns des Sadducéens, donc des descendants de Sadoc, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent et firent à Jésus cette question. Luc 20, verset 27. Maître, puisque voici ce que Moïse nous a prescrit. Si là, le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme. Même s'il en a encore une, hein, il doit la prendre en plus. Et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, il mourut sans enfant. Le second se maria et mourut sans enfant. Le troisième, etc. Ils épousèrent la veuve. Il en fut de même pour les sept, qui moururent sans laisser d'enfant à cette femme. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Alors Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle, donc de cette époque-ci, du temps du péché sur la terre, avant le royaume, prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à Ion, c'est-à-dire au royaume de Dieu, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, qui seront fils de Dieu, et étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand à propos du buisson ardent, il appela le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Que veut dire ce texte? Donc la puissance de Dieu est exceptionnelle au sein du cœur de la vie d'un chrétien. Mais, même s'il n'a pas de signe exceptionnel, il est dans une situation exceptionnelle. Et il va vers une destinée exceptionnelle, où il n'y a pas besoin d'avoir des vierges et tout ça au service de celui qui aurait donné sa vie pour la foi, pour Dieu. Il n'y a pas besoin. Parce qu'il n'y a ni homme ni femme. Les appétits sexuels sont finis. Les désordres sexuels sont finis. Moi, j'ai logé ici des personnes de l'islam qui pratiquent. Je leur ai dit, nous n'avons pas le même paradis. Pas possible. Nous n'avons pas le même paradis. Regardez ce que Jésus dit. Alors, parce que tous les appétits de ce monde, appétits de l'argent, appétits de violence, appétits de sexuel, tout ça, si nous sommes saints, rendus saints par le Fils de Dieu, nous sommes en présence de Dieu, il ne doit pas y avoir un seul péché. Au ciel, ce n'est pas pire que sur la terre. Ça doit être différent. Et c'est saint. Dieu est saint. Tout doit être saint, là. Si ce qu'il y a sur la terre, on le retrouve au ciel, en pire, c'est quoi? C'est quoi pour un Dieu? C'est quoi pour un Dieu? C'est pas le même Dieu. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Nous avons un Dieu de sainteté. C'est qu'il y a des gens qui, de manière exceptionnelle, au moment où il y a des tribulations, échappent à la mort parce que Dieu a mis des anges autour d'eux et ce n'était pas l'heure de leur jour de mort. Ils ont échappé. Et si le songe dans nos enfants est comme ça, ça veut dire qu'il y aura des anges, il y aura le sang de Christ pour nous protéger au moment où il y a des épreuves. Croyez-vous et vivez-vous sous le sang de Christ. Vivez-vous avec l'amour de Dieu, l'adoration de Dieu, au point que Dieu vous garde précieusement. Précieusement. Comme sa petite brebis. La petite brebis qui est tout à fait perdue par papa-maman, elle a besoin de quelqu'un qui s'en occupe. Alors, si vous êtes dans ce monde comme des petites brebis, vous avez compris que vous êtes dans les bras de Dieu, dans l'amour de Dieu, l'amour de Christ, comme c'est mis dans Jean chapitre 17, vous avez un trésor de foi. Et vous savez bien que dans Matthieu, on parle des brebis. On parle des brebis. Je ne sais pas si vous vous rappelez où c'est. Matthieu 18, verset 11. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Qu'est-ce que vous en pensez? Si un homme a 100 brebis que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres, 99 autres, sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. plus nous sommes petits devant la face de Christ, plus nous sommes en vérité en Christ, plus nous sommes gardés par Christ. Attention, c'est un message tout à fait qui est nécessaire dans les temps à venir. Et c'est la perle qui nous permet de tenir le coup. La vraie perle. C'est le vrai chemin, le petit chemin. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que la foi vous garde. Vous êtes gardés par la foi, comme dit Paul dans l'Épître à Timothée. Vous êtes gardés par la foi. Mais quelle foi ! Une union entre l'épouse et son mari. Une union parfaite. L'union de Christ et du chrétien. Et des chrétiens. Je ne dis pas des chrétiens avec les basiliques et les cathédrales. Hein. Dieu n'a pas voulu de grandes mosquées, de cathédrales, de comptes en banque, d'armées. Il veut une union spirituelle avec l'homme. Il veut une union sacrée entre sa créature et lui. Voilà la mission de Jésus. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Que Dieu vous bénisse.